OK, donc, bienvenue. On est de retour après 2 semaines qu'on n'a pas eu d'études. Ça semble être long, mais on continue ce soir. On va continuer dans Éphésiens. On est dans le chapitre 6 d'Éphésiens. On va lire, on avait déjà commencé à partir du verset 10 jusqu'au verset 20, mais on avait déjà commencé ça. C'est en rapport avec le combat. C'est un grand conflit. La vie chrétienne, on avait dit, c'est un grand conflit, mais on a les armes. Le Seigneur nous a donné les armes nécessaires pour lutter contre les ennemis. On va lire pour commencer à partir du verset 10 de Éphésiens 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Puis dans l'original, c'est au reste, frère. Au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble. On va demander son aide. Seigneur notre Dieu, on se courbe dans ta présence en te remerciant infiniment, notre Dieu, pour ta parole merveilleuse qui nous enseigne tout ce que nous avons besoin de connaître pour marcher dans ce beau monde comme des enfants de Dieu, des enfants de lumière. On avait vu, notre Dieu, comment marcher en rapport avec toutes les bénédictions et toute l'œuvre que tu as fait en nous pour nous faire devenir tes enfants, Seigneur. On te remercie pour ça, puis on te demande de nous bénir ce soir. Merci pour ton esprit qui nous guide dans ta parole. Et merci pour tous ceux qui sont là, Seigneur. On te demande de bénir chacun au nom précieux de notre Sauveur, ton bien-aimé Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on avait dit la dernière fois que la vie chrétienne, c'est un grand conflit. C'est un combat constant. Il y a des gens qui, s'ils ne réalisent pas le combat qu'il y a à livrer, c'est parce qu'ils ne sont pas engagés dans la vie chrétienne, mais on est dans le territoire ennemi. Puis, c'est un combat parce qu'on a à lutter. On avait parlé dans le chapitre, comme on avait fait un petit peu dans le chapitre 1, c'était les bénédictions. Dans le chapitre 2, c'était notre origine. Dans le chapitre 2 aussi, on avait ensuite le salut. Puis dans le chapitre 2, 3, c'était la construction de cet édifice-là. Après ça, il y avait la prière de Paul. Puis ensuite, au chapitre 4 et 5, on avait vu la marche du chrétien. Et après ça, dans le chapitre 5, 6, on avait vu la soumission. Et maintenant, on vient aux ressources disponibles que Paul nous avait données. Il nous avait dit qu'il y a trois armures dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, qui sont décrites pour nous. C'est des armures qu'on a besoin de revêtir. Dans le chapitre 13, au verset 12 de Romains, mais c'est l'armure de la lumière. Ça, c'est dans notre combat contre la chair. Donc, on a l'armure de la lumière. Dans 2 Corinthiens 6, 7, c'est dans le combat avec le monde. C'est l'armure ou c'est les armes offensives et défensives de la justice. Ça, c'est pour lutter contre le monde. Dans Éphésiens 6, 13, on voit maintenant, comme on voit ici, là, c'est toute l'armure. C'est une panoplie d'armes parce que là, ici, c'est pour lutter contre l'ennemi, contre le diable. Donc, on est équipé pour nos trois ennemis. Qu'on a, les chrétiens ont trois ennemis, c'est-à-dire la chair, le monde et le diable. Puis on a l'armure que le Seigneur nous a pourvu de cette armure-là. Donc, il nous dit de se fortifier par sa force toute-puissante. Puis après ça, il nous définit l'ennemi comme ceci, parce qu'ici, c'est en rapport avec le diable. Il dit au verset 11, il l'appelle le diable. Dans le verset 16, il l'appelle le malin. Dans le verset 12, il parle des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Puis le champ de bataille, c'est dans les lieux célestes. Comme nos bénédictions sont dans les lieux célestes, mais pour posséder nos bénédictions, c'est là qu'on va combattre contre l'ennemi dans les lieux célestes. Puis c'est la méthode d'attaque de l'ennemi. On avait vu que c'était au verset 11, c'est des ruses. Au verset 16, c'est des traits enflammés. Puis le temps de l'attaque, ben, c'est les mauvais jours, pour résister dans les mauvais jours. Mais le Seigneur il nous dit que c'est lui qui a bâti. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc on arrive maintenant ici au verset 12. Au verset 10, il disait, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Puis comme on a dit tantôt, ici c'est une panoplie. Donc c'est toutes les armes qu'on a besoin. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Maintenant, quand on arrive au verset 12, il nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ici, même si les agents sont humains, parce que des fois, c'est des conflits entre nous autres, mais il faut toujours réaliser que même si les agents sont humains, le combat, lui, est spirituel. C'est vraiment l'ennemi qui essaie de causer le trouble. C'est lui qui essaie d'amener des adversaires contre nous. Mais vraiment, il faut regarder au-delà des agents humains qui sont utilisés pour combattre. Mais le combat, vraiment, est spirituel. Donc, il faut regarder au-dessus de la chair. Puis voir ici, c'est la chair et le sang. Là, si c'était la chair et le sang, on combattrait avec des épées. Puis, mais ici, c'est des armes spirituelles qu'on a besoin parce que le combat, il est spirituel. Il ne faut jamais oublier ça, que le combat est spirituel. Fait qu'il ne faut pas voir vraiment, des fois, en arrière de ces ennemis-là, c'est vraiment l'ennemi, c'est Satan qui est en arrière de ça. On parle ici des autorités, des dominations, des princes de ce monde, de ténèbres, puis des esprits méchants. Donc, c'est en arrière de tout ça le combat qu'on a à lutter. C'est ça. Puis, il faut faire attention, nous autres aussi, de ne pas devenir des agents de ces puissances-là qui viennent semer le trouble parmi nous. Il faut se juger devant le Seigneur. Au verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous savez, dans Jacques, il nous dit de résister au diable et fuira loin de vous. Il y a des gens qui vont réprimer, mais on sait que Jude, il dit que même il n'osait pas porter un jugement injurieux, mais il disait que le Seigneur te réprime. Donc, c'est avec la force du Seigneur, comme il nous a dit tantôt, c'est revêté par sa force toute puissante au verset 10. Donc, c'est avec la force du Seigneur. Ce n'est pas nous autres qu'on a l'autorité, mais c'est le Seigneur, c'est en son nom qu'on a l'autorité. Donc, on a besoin de toute l'armure de Dieu parce que le combat est réel et l'armure, ben, l'armure est portée sur le devant. L'armure d'un combattant est portée sur le devant. Derrière, ton dos n'est pas protégé. Il ne faut pas se tourner dans la bataille. Il faut continuer d'avancer parce que si on retourne en arrière, ben là, on est exposé aux armes de l'ennemi. Mais il faut continuer à combattre. C'est ça, pour ça qu'il va nous parler de la foi tantôt. C'est la foi qui va nous donner de persévérer dans le combat ici, là. Donc, l'armure sur le devant. Dans la retraite, on n'est pas protégé. Mais il dit de résister et aussi de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, c'est la victoire qu'il nous proclame ici, là. Il faut continuer d'avancer, il faut résister, il faut surmonter. Le Seigneur dit que si on avait la foi comme un grain de sénévé, on dirait à cette montagne-là, ôte-toi de là, puis jette-toi dans la mer, puis elle le ferait. Donc, c'est par la foi qu'on va résister, même qu'on va tenir ferme. Puis après ça, on va surmonter dans les mauvais jours. Mais au verset 14, il nous parle, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Donc, il parle de la vérité pour ceinture. La ceinture, quand on a une armure comme cela, La ceinture, c'est ce qui tient tout en place, c'est ce qui tient cette armure-là bien sur nous, là. Donc, la ceinture qui tient tout ça, qui tient les pièces ensemble, ben, c'est la vérité qui est la ceinture. C'est la vérité révélée. C'est pour ça qu'il faut chercher, il faut connaître l'Écriture, il faut connaître la vérité qui est dans l'Écriture. C'est au verset 1, 13, dans Éphésiens 1, 13, il nous parle de la parole de la vérité. Donc, la parole de Dieu, c'est la vérité. Il y a des fois, il y a des gens, comme c'est les témoins de Jéhovah, ils parlent, qui sont dans la vérité, mais ce n'est pas la tour de garde qui est la vérité, c'est la parole de Dieu. Il faut toujours retourner à la parole de Dieu. C'est elle qui est la vérité. Paul l'avait dit dans Éphésiens 1, 13. Puis dans Éphésiens 4, 21, il avait dit la vérité qui est en Jésus. Parce que lui, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on a la vérité qui est dans la parole, c'est la vérité. Mais la parole écrite, c'est la Bible, c'est la vérité. Puis le Seigneur Jésus, c'est la parole vivante. Puis lui, il dit la vérité qui est en Jésus. Donc, c'est la vérité qui soutient la personne plutôt que la personne soutient la vérité. Des fois, on pense, c'est dur qu'il faut soutenir la vérité. La vérité est là. Il y avait une secte qui disait, il appelait ça la pure vérité. Mais si la vérité n'est pas pure, c'est pas la vérité. C'est la vérité, on peut pas, c'est elle qui est là, on la suit, on la reçoit, mais c'est pas, on n'a pas besoin de la soutenir, la vérité. C'est elle-même qui se soutient. C'est un petit peu comme un lion, là. Un lion, t'as pas besoin de le défendre. T'as juste à le détacher, puis il va se défendre tout seul. Puis c'est comme ça aussi avec la vérité. C'est pour ça qu'il faut marcher dans la vérité. Il faut qu'on soit. Si on est dans la vérité, ben on a cette ceinture-là à nos reins qui tient toute notre armure en place. Puis ça, c'est important ici. Ensuite de ça, il parle de la cuirasse. La cuirasse de la justice. La cuirasse, elle est sur le thorax. Sur le thorax, ben, puis ça protège les organes vitaux. C'est important de protéger les organes vitaux. Donc, mais la justice, c'est pas ici quand il parle de revêtir la cuirasse de la justice, c'est pas notre justice à nous autres. Parce que si c'était la justice pratique, on pourrait être en danger. Mais ce qui fait que c'est une armure qui est sécure, mais c'est la justice qu'on trouve qui nous est donnée. Parce que si c'était notre justice à nous autres, l'ennemi pourrait nous vaincre. Mais c'est celle qui est pourvue par Dieu dans la position. Vous savez, quand on a accepté Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, quand on a mis notre foi, comme il dit, Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Donc, c'est de cette justice-là qui est question ici, là. C'est la justice qui nous est imputée par le Seigneur. Puis, elle est parfaite. Dans nos pratiques, des fois, on peut broncher, mais dans la justice que Dieu nous a donnée, dans la position, on est parfaitement juste, puis on est en pleine sécurité contre les ruses puis les attaques de l'ennemi, là. Au verset 15, il nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, comme chaussure à nos pieds, ben ça, c'est pour la marche. Donc, la cuirasse, c'était pour protéger le thorax, la ceinture, c'est pour garder toutes les pièces de l'armure ensemble. Mais ici, les chaussures, ben, c'est pour la marche. Donc, on marche, on a dit que quand le Seigneur avait dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, c'est que c'est l'église qui va attaquer les portes du séjour des morts pour délivrer. Ça, c'est par l'évangile qu'on va attaquer ces portes-là. Parce que Satan garde les gens dans l'ignorance. Et à aveugler l'intelligence de ceux qui périssent pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, on va avec les chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix, eh bien, on va proclamer cet évangile-là. Puis c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que ça devient plus difficile. On sait que les lois se resserrent pour nous, ça devient plus difficile, mais C'est un peu comme les apôtres, quand ils leur ont défendu de parler au nom du Seigneur Jésus, ben, ils ont dit, jugez s'il est convenable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Donc, ils sont allés avec l'Évangile, ils ont continué, puis l'Évangile a fait des grands progrès. Vous savez, dans un sens, des fois, on dit, oh, mais là, ça va être difficile de proclamer l'Évangile. Mais quand ça va être difficile de proclamer l'Évangile, c'est parce que l'Évangile va être puissante. C'est parce que l'ennemi va essayer d'arrêter l'Évangile. Mais quand il y a de l'opposition à l'Évangile, est encore plus forte. On dit des martyrs quand il y avait les catacombes, puis il y avait aussi le Colisée à Rome, on livrait les chrétiens aux bêtes féroces puis aux gladiateurs. Mais il disait que quand les gens mouraient pour l'Évangile, il disait que le sang des martyrs était la semence de l'Église. Puis même des bourreaux qui ont tué des chrétiens, à un moment donné, ils ont réalisé la réalité de l'Évangile. Parce que l'Évangile, on meurt pas pour un mensonge, là, parce que mourir pour un mensonge, c'est belle valeur, mais ça donne pas grand-chose. Mais la puissance de l'Évangile, quand les gens ils voient que les chrétiens sont prêts à mourir pour l'Évangile, c'est parce que c'est sérieux, c'est parce que c'est vrai. Puis, on prie pour un réveil. Des fois, on pense un réveil, ça va être facile. Non, pour un réveil, ça ne sera pas facile. Parce que quand il y a des réveils, l'ennemi va attaquer. Si on ne fait rien, si on reste tranquille puis qu'on ne parle pas, l'ennemi ne nous attaquera pas. Pourquoi vous pensez que Paul était attaqué comme il l'a été? Ben, c'est parce que lui, comme il dit plus tard, il dit, je suis, pour l'Évangile, je suis un ambassadeur dans les chaînes. Il était dans les chaînes, mais on va le voir plus tard, que même dans les chaînes, Paul était très efficace pour présenter l'Évangile. Donc, la marche à accomplir, c'est le zèle que donne l'Évangile de paix. Puis, c'est vraiment pour accomplir la grande commission. C'est un terme qu'on dit, la grande commission, le Seigneur Jésus, il dit, allez par tout le monde, prêcher l'Évangile dans toute la création. Puis faites de toutes les créatures des disciples. Donc, c'est ça qui est ici. Là. Mais des fois, on s'en sent plus à la grande omission que la grande commission. Parce que si l'Évangile n'est pas annoncé, on est. Paul, il disait que s'il n'annonçait pas l'Évangile, ben, il serait redevable pour ça. Malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile. Donc, c'est un privilège qu'on a d'avoir un message qui est puissant, qui peut sauver. Quiconque. Puis c'est un message puissant, c'est merveilleux. On n'a pas à dire à des gens, ben là, toi, je pense pas que tu seras pas sauvé, tu peux pas être sauvé, tu es trop pécheur. Puis il y a des gens qui nous disent ça. Moi, je peux pas être sauvé parce que je suis trop grand pécheur. Puis on peut leur annoncer avec assurance, l'Évangile est capable de sauver. J'ai rencontré une fois une femme qui était sur la rue, puis elle dit, moi, je peux pas être sauvé. Elle dit, je suis possédé. Ben, j'ai dit, le Seigneur, il a sauvé des possédés quand il était sur la terre, puis il est capable de te sauver. Il est capable de te délivrer, puis te sauver. Tu as juste tourné vers lui, puis croire à son œuvre qu'il a accomplie pour toi, puis je te garantis qu'il peut te sauver. C'est ça qu'on a comme message, le zèle que donne l'Évangile de paix. C'est l'importance aussi de bien connaître l'Évangile. Vous savez, il y avait quelqu'un une fois qui me demandait, mais comment est-ce qu'on fait y a-t-il des livres pour nous aider à prêcher l'Évangile? Ben, j'ai dit, prends des traités, puis lis des traités d'Évangile. Tu vas avoir tes versets qui reviennent constamment, les versets de l'Évangile, puis tu vas avoir des histoires aussi, parce que dans les traités, on relate des histoires, des choses pour illustrer l'Évangile. J'ai dit, le meilleur livre que tu peux lire pour l'évangélisation, c'est des traités. Prends-toi des traités, puis lis ça, puis ça, tu vas être équipé pour prêcher l'Évangile. Puis un traité, il est fait pour présenter l'Évangile. Ça fait que si on lit des traités, là, c'est une très bonne lecture. C'est pas long à lire. Un traité, d'habitude, c'est pas trop long, mais ça présente l'Évangile, ça donne les arguments, ça donne les versets. On a tout ce qu'il faut pour prêcher l'Évangile avec ça. Donc, c'est important. Mais au verset 16, il nous dit, par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, il y a toute l'armure sur la personne. On a cette armure-là. Mais là, il y a un bouclier qu'on tient devant nous aussi pour nous protéger, qui est devant nous. Donc, c'est un bouclier par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Puis, c'est ce qui nous donne de persévérer. C'est quoi? C'est la foi. Quand on a la foi, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Dans Hébreux 10, 39, il dit, nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, quand on a la foi, c'est triste qu'il y a des gens qui croient qu'on peut perdre notre salut. Comment est-ce qu'ils peuvent combattre en pensant qu'ils sont obligés de garder leur salut? Fait que tu peux faire toute ta vie, vivre ta vie, puis à la fin, te détourner, puis être perdu pour l'éternité. Ça fait aucun sens. Le Seigneur ne nous a pas donné une vie chrétienne comme cela. Le Seigneur nous a donné une assurance. Puis cette assurance-là, on en a besoin. Le Seigneur, il y a plusieurs versets qui nous disent ça. Puis moi, un verset que j'aime beaucoup pour la sécurité éternelle du croyant, c'est « Je leur donne, dans Jean 10, 28, je leur donne la vie éternelle. » Donc, ce n'est pas une vie éternelle qu'on a à gagner. Elle nous est donnée. Puis déjà là, quand il dit « Je leur donne la vie éternelle », comment longtemps ça dure la vie éternelle? Ben, ça dure toujours. C'est une vie éternelle qu'il nous a donnée. Puis le Seigneur, sachant qu'on va avoir de la difficulté avec ça, parce qu'on a de la difficulté à croire, mais il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Ça, le Seigneur ajoute sécurité par-dessus sécurité. Puis encore là, il dit, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Puis le Père qui est plus grand que moi, personne ne peut les ravir de la main du Père. Donc, c'est sécurité par-dessus sécurité. Ceux qui pensent qu'ils ont un salut qu'on peut perdre, quelle tristesse. Moi, je pense que je ne serais pas capable de vivre une vie chrétienne en pensant que je pourrais perdre mon salut. Parce que ce n'est pas nous autres qui l'a gagné. Il nous a été donné. C'est le Seigneur qui nous garde. Puis Paul, il pouvait dire, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, quand les attaques de Satan rencontrent notre foi, ben, ils sont ineffectives. Les attaques sont ineffectives parce qu'ils rencontrent la foi. La foi dans l'œuvre, pas la foi dans nous autres, mais la foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés pour l'éternité. C'est que peu importe qu'est-ce qui va arriver, on sait une chose, c'est que on va arriver au but. Par le Seigneur va nous amener jusqu'au but. Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance ou le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce qu'il vienne. Paul avançait avec une foi pleine. Il n'y avait pas de doute par rapport à son salut. Puis ça, c'est bien important. Vous savez, des fois, il y a des gens qui, au moment du salut, ils ont de la difficulté à avoir cette assurance-là qu'ils sont sauvés. Moi, des fois, je leur dis, si vous entendiez une voix du ciel qui vous disait, t'es sauvé, le croiriez-vous? Ils disaient, ah ben oui. Ben là, tu peux pas te fier à une voix qui vient du ciel parce qu'il y en a qui entendent des voix, puis c'est pas la voix de Dieu. Mais quand tu lis dans la parole de Dieu que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, ben ça, c'est la voix de Dieu. Puis si tu peux te fier là-dessus, ça, c'est la foi dans la parole de Dieu. Et celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Donc, le Seigneur, c'est important qu'il veut qu'on sache, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, c'est important, ça, d'avoir cette assurance-là. Puis aussi, pas juste l'assurance de se savoir sauvé présentement, mais de savoir qu'on est sauvé pour l'éternité. Ça, c'est un bouclier efficace qui est contre les attaques de l'ennemi. Il a beau nous attaquer, mais ces attaques rencontrent le bouclier de la foi. Puis on peut éteindre avec ça, le bouclier avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Fait que si on n'a pas le bouclier, les traits vont nous atteindre. Mais si on a le bouclier, c'est le bouclier qui reçoit les attaques. Les traits enflammés, puis ça ne nous atteint pas. Donc, c'est important, ça. C'est des choses. On parle d'une armure, là. Il parle de toute l'armure de Dieu, là, pour tenir ferme dans les mauvais jours, puis résister, puis tenir ferme. Donc, il faut connaître la vérité pour discerner le faux. Ça, c'est là. Mais c'est aussi la foi. Quand on parle de la foi, on peut parler de notre foi personnelle qu'on a mis dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais On peut, il y a la foi, quand on dit la foi qui a été livrée au saint une fois pour toutes, ça c'est l'ensemble de la doctrine. C'est l'ensemble de la doctrine chrétienne, la doctrine du Nouveau Testament. Puis ça c'est important. Puis il faut la connaître, la vérité. Il faut connaître pour discerner le faux, là. C'est connaître cette foi-là. C'est pour ça qu'on a besoin de lire la parole de Dieu. C'est pas juste celui qui est en avant ou celui qui prêche qui connaît la parole de Dieu. C'est toute l'Église. Chacun doit avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, à un moment donné, dans l'histoire de l'Église, je pense que c'est dans le livre L'Église ignorée, il y avait des prêtres qui allaient visiter des dissidents. Puis ils disaient que quand ils allaient visiter, les enfants leur enseignaient des vérités de la parole de Dieu qu'ils ne connaissaient pas. C'était des prêtres qui avaient été dans les séminaires, tout ça. Puis eux, ils disaient ça, que les enfants, avec ces gens-là qui appelaient des dissidents, parce que c'était des gens qui ne se ralliaient pas à l'Église catholique, mais qui marchaient selon la parole de Dieu, puis ils disaient que même les enfants leur enseignaient des choses de la parole de Dieu. C'est pas eux qui ont dit ça, c'est des ennemis qui disaient ça d'eux. Donc, c'est vraiment merveilleux. Vous savez, quand les enfants sont enseignés de la parole de Dieu. Tout le monde a une connaissance de la parole de Dieu. Au verset 17, il nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, le casque du salut, comment qu'on pourrait combattre si on n'a pas, qu'on n'a pas l'assurance de notre salut? Mais le casque protège la tête. Fait que c'est important que la tête soit bien protégée. Mais il dit, comment si on n'avait pas l'assurance du salut? Si on n'était pas, qu'est-ce que serait la bataille si on n'était pas sûr de la victoire? C'est quand on combat, on est sûr de la victoire. On se décourage pas, on continue. Puis là, on parle de nos pensées, le casque du salut, là, ça nous parle de nos pensées. Là, nos pensées sont dans la tête, mais quand on sait qu'on est sauvé. Puis qu'on va la bataille, on va la gagner. On n'est pas perdant, là. On est gagnant. On est du côté des vainqueurs. Fait qu'il faut, à la fin, c'est nous autres qui vont gagner. Donc, Paul pouvait dire, je suis persuadé, dans Philippiens 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, la bataille, aller gagner. On a juste à combattre, continuer à persévérer, mais la bataille, à la fin, aller gagner. Dans 2 Timothée 1,12, Paul pouvait dire, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Mais c'est aussi, quand on parle ici, on sait que la bataille, elle va être gagnée d'avance, mais présentement, dans nos combats quotidiens qu'on a tous les jours, il faut savoir aussi que le Seigneur va nous donner le salut. Quand on parle du salut ici, il va nous donner la victoire dans nos batailles, dans nos combats de chaque jour. En se confiant dans lui, il va nous donner la victoire. Puis, dans 1 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 13, il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, ça, c'est important de savoir ça. Le Seigneur, on sait que le Seigneur avait dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais il dit, j'ai prié pour toi. Puis quand tu seras revenu, encourage tes frères, sois avec tes frères. Donc, il dit, Paul, il pouvait dire ici, je n'ai point honte car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il pourvoira aussi au moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est important, quand on est dans les combats, c'est important, des fois, c'est vrai que ça nous amène au bout de nous-mêmes. Mais quand on est rendu au bout de nous-mêmes, là, le Seigneur est là. Il est là pour délivrer. Il ne permettrait pas qu'on aille au-delà. Quand on pense à Job, c'est sûr que Job a été tenté à l'extrême. Mais le Seigneur, il y avait une limite. Il avait donné à Satan une limite. Puis il n'a pas permis à Satan de le vaincre. Il n'a pas vaincu et Job a resté ferme dans sa foi. Il a continué. Le Seigneur, il a continué à louer Dieu. Puis il a supporté la tentation. Il a pu en sortir parce qu'à la fin, il a pu dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc, il avait été victorieux. Puis, si on pense à l'épreuve que Job a eue, moi, je ne choisirais jamais de passer où ce que Job a passé. Puis, Job n'aurait pas choisi de passer là. Mais si le Seigneur nous amène dans des combats qui sont extrêmes, il va être avec nous autres. Il ne permettra pas que ça aille au-delà de ce qu'on peut supporter. Puis, quand on arrive au bout de nous-mêmes, là, ben, le Seigneur est là. Puis il va prendre soin, il va nous sortir de des situations. Vous savez, par la prière, là, on sort de des situations incroyables. Des fois, on pense que tout est perdu, il y a plus rien, il y aura plus rien à faire, mais le Seigneur, au bon moment, il arrive juste à temps, puis il nous sort de la situation. Puis c'est comme un peu quand il était dans la barque, la tempête, ils ont réveillé le Seigneur qui dormait à la poupe sur le coussin. Puis on dit, ben, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et là, ils pensaient qu'ils s'en allaient pour le fond de la mer, là, parce que la tempête faisait rage, puis la barque se remplissait. Puis le Seigneur a dit, il s'est levé, puis il a dit, silence, tais-toi. Et il y eut un grand calme. Puis il leur a dit, comment n'avez-vous point de foi? Le Seigneur était pas, il avait dit, avant d'embarquer dans la barque, il avait dit, passons de l'autre bord. Fait, il n'avait pas dit, allons couler au milieu de la mer. Si le Seigneur avait dit, passons de l'autre bord, c'est parce qu'il allait aller de l'autre bord. Puis, même s'il dormait sur le coussin, puis des fois, il nous semble que le Seigneur dort. Mais quand il dort, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Puis même quand on pense qu'il dort, il est quand même au courant, il est au contrôle de tout. Puis quand il s'est levé, mais imaginez-vous qu'est-ce que ça a dû être pour ces gens-là dans la barque, là. Puis il y avait d'autres barques aussi alentour. Ça nous dit, je pense que c'est dans Marc qui nous dit qu'il y avait d'autres barques alentour. Fait qu'imaginez-vous, eux, qui luttaient contre la tempête, puis tout d'un coup, il y eut un grand calme. Ouf, ça, tout s'est arrêté, là, parce que le Seigneur a commandé. Donc, c'est important de réaliser que le Seigneur, il va nous donner la victoire. Il s'agit de continuer à persévérer, puis s'attendre de lui, puis chercher le moyen d'en sortir pour qu'on puisse la supporter. Après ça, il nous parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous savez, pour manier une épée, ben, ça prend de la pratique. Pour manier une épée, quand on fait de l'escrime, là, il faut. Parce que si on pratique pas comme il faut, l'autre, il va nous piquer. Donc, il faut savoir manier l'épée. Puis, quelqu'un qui sait bien manier l'épée, il peut se défendre. Puis, il nous parle ici de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Puis, comme il faut pratiquer à manier une épée, il faut pratiquer à manier la parole de Dieu. Il faut savoir la manier. La parole de Dieu est puissante. Puis, vous savez, d'avoir un verset, c'est pas croyable comment un verset de la parole de Dieu peut être puissant. Moi, à un moment donné, j'étais dans une situation qui, ça allait pas bien, là. Mais je sais pas, ça a sorti de ma bouche. J'avais même pas réalisé que c'était la parole de Dieu. Mais le verset est sorti de ma bouche, puis ça a fait, tout s'est arrêté là. Puis après ça, j'ai réalisé que c'était la parole de Dieu. Puis là, j'ai dit, waouh, la parole de Dieu est vraiment puissante. Mais il faut l'avoir dans notre pensée. Il faut l'avoir au bon moment. Il faut avoir le bon verset au bon moment. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de savoir manier la parole de Dieu, là. Pour ça que dans 2 Timothée, 2, Paul, il exhortait Timothée. Il disait, efforce-toi de te présenter devant Dieu. C'est devant Dieu, c'est pas devant l'ennemi, mais c'est devant Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, c'est-à-dire quelqu'un qui a été mis à l'épreuve. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Vous savez, quand il y a un conflit, Paul dit aussi qu'un serviteur du Seigneur, il ne doit pas avoir de querelle avec les autres, mais être affable pour tous, puis utiliser la parole. Quand il y a une situation qui est ambiguë, de savoir appliquer la parole de Dieu. Vous savez, Il y a la sagesse. La sagesse, là, il y a la connaissance, puis il y a la sagesse. La connaissance, c'est de connaître la parole de Dieu. Mais la sagesse, c'est de savoir l'appliquer au bon moment. Savoir appliquer la bonne parole au bon moment. Puis c'est pour ça que ça, on pratique ça. Vous savez, des fois, moi, je sais bien qu'au début de ma vie chrétienne, je faisais souvent face à des témoins de Jéhovah. Puis, des fois, ça nous pratique, ça, à manier la parole. Parce que des fois, je n'avais pas la réponse. C'est correct de ne pas avoir la réponse, mais je la trouvais dans la parole de Dieu, par exemple. À un moment donné, je lisais un verset, puis je disais, ah, regarde, ça, c'est la réponse. Fait que j'emmagasinais ces choses-là. J'avais mis à la fin de ma Bible, je mettais des versets, puis je marquais TJ. Témoin de Jéhovah, ça, c'est des versets, c'était mes armes contre ceux qui venaient avec la fausseté. Mais là, j'avais la parole pour pouvoir leur donner un verset qui répondait à leurs erreurs. Donc, c'est important, ça. Puis, la parole de Dieu, là, c'est une arme offensive. Comme on disait tantôt, la parole de Dieu, c'est une arme offensive. Puis, quand on peut appliquer la parole aux situations, là, c'est comme je disais tantôt, c'est comme un lion, là. Laisse-les libres, puis il va s'arranger. Envoie la parole, puis c'est elle qui va faire son œuvre ici, là. Dans 2 Timothée 2,16, il dit, évite les discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Donc, ça ne donne rien d'argumenter. Des fois, on peut argumenter, gagner l'argument, perdre la personne. Il faut faire attention aussi. Fait qu'il faut appliquer la parole de Dieu. Puis, des fois, dans des arguments, quelqu'un qui se choque, là, c'est parce qu'il a perdu l'argument. Puis là, essaie d'utiliser la violence pour pouvoir surmonter l'ennemi. Mais on n'a pas besoin. Si on a la parole de Dieu, on peut surmonter l'erreur avec la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 2, 23, 26, il dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est important, oui. Il peut y avoir des arguments, des fois, par rapport, on sait qu'on est averti dans la parole de Dieu que comme il y a eu des faux prophètes dans l'Ancien Testament, il va y avoir des faux docteurs dans le Nouveau Testament. Il va y avoir des gens que Paul il disait, il faut fermer la bouche. Mais comment? C'est pas en les attaquant, mais c'est en exposant la parole de Dieu. Être capable d'exposer la parole de Dieu d'une façon que il n'y a plus d'arguments. Vous savez, le Seigneur Jésus faisait ça. Quand il y arrivait avec une question, là, comme les Sadducéens y arrivaient avec la question, qu'ils autres ne croyaient pas à la résurrection. Puis là, il amenait la situation que dans l'Ancien Testament, si un homme avait une femme, puis qu'il mourait sans donner de postérité, sans avoir de postérité, son frère devait reprendre la femme pour susciter une postérité à son frère. Puis là, il amène une situation devant le Seigneur que, il y a 7 frères qui ont eu la même femme, puis sont tous morts. Puis il dit, à la résurrection, de qui va être le mari? C'est qui va être le mari de cette femme-là? Elle en a eu 7. Le Seigneur, il leur dit, vous êtes grandement dans l'erreur, puis vous ne connaissez pas les Écritures. C'est beau de voir ça, le Seigneur, il dit ça, parce que là, il leur dit, à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, parce qu'on va être comme les anges de Dieu. Fait que, le Seigneur, puis quand ils sont venus, il y avait les Sadducéens, les pharisiens, les Hérodiens, qui sont venus avec des questions pour le Seigneur, pour essayer de le prendre à défaut, puis le Seigneur les a toutes fermé la bouche. Ils ont tous brisé leurs arguments au point qu'ils n'osaient plus poser des questions parce que le Seigneur les exposait d'une façon vraiment merveilleuse. Il les exposait à la parole de Dieu, puis il n'y avait plus d'arguments. Parce que les Hérodiens, autres, ils demandaient, mais est-il permis de payer le tribut à César? Puis le Seigneur il dit, donnez-moi un denier. Il y avait des deniers dans leur poche. Ils ont donné un denier au Seigneur, puis il a dit, c'est qui l'effigie? De qui? Lequel effigie, ça, qui est sur le. Mais ils ont dit, c'est César. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient leur dire? Les autres, ils voulaient dire, le Christ devrait les délivrer de la servitude à l'ennemi. Mais le fait qu'il y avait l'argent de Rome dans le poche, c'est parce qu'il était en captivité, c'est parce qu'il était soumis à Rome. Pourquoi qu'il était soumis à Rome? À cause de leur idolâtrie, à cause de leur péché, qu'ils ne s'étaient pas repentis. Puis le Seigneur vient dire, vous l'avez eu de César, alors donnez-le à César. Donnez à César ce qu'il il osait plus. Parce que c'était une question piège dans un sens, parce que s'il disait qu'il fallait payer le tribut à César, ben là, il disait, t'es pas le Christ est supposé nous délivrer. Puis s'il disait de pas payer le tribut à César, ben là, il l'aurait accusé de rébellion contre César pour le faire arrêter. Fait que, c'est-à-dire, il y avait toujours des réponses qu'ils pouvaient pas, les autres, ils pouvaient pas réfuter ces réponses. Mais quand il parle de la parole de Dieu aussi, ça peut vouloir dire aussi la parole que Dieu nous donne dans des circonstances. Je pense qu'on a tous connu ça, des situations où le Seigneur nous donne une parole au moment donné. Vous savez, on est en train de témoigner de l'Évangile à quelqu'un, puis à un moment donné, il y a une parole qui nous vient, puis on se dit, waouh, c'est vrai, c'est d'où ça vient ça? C'est le Saint-Esprit qui nous donne sur le champ une parole. Puis c'est pour ça, des fois, il ne faut pas avoir peur de témoigner. On dit, ouais, mais là, j'aurai pas les réponses. Mais allons-y avec la foi. Puis si on n'a pas la réponse, on dit, on ne l'a pas, on va la chercher. Mais souvent, le Seigneur, quand on a, moi j'appelle ça l'audace de la foi, pas de l'arrogance. C'est l'audace de la foi. C'est d'être prêt à aller de l'avant, sachant que le Seigneur va être avec nous autres. Puis la parole de Dieu, là, elle peut nous être donnée dans les circonstances par le Saint-Esprit. C'est sûr qu'il faut la mettre dans notre pensée. Puis le Saint-Esprit peut nous l'emmener à notre pensée. Dans Marc 13, au verset 11, le Seigneur a dit, quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Il faut réaliser, des fois, quand on parle, ce n'est pas nous autres qui parlons, c'est pas nous autres, c'est le Seigneur qui veut parler à travers nous autres. Puis s'il veut parler à travers nous autres, il est capable de nous donner les paroles nécessaires pour parler à celui, parce que le Seigneur, il a un message à donner. On est juste la bouche, nous autres. Le Seigneur, il a un message à donner. Puis vous savez, des fois, ça arrive, on va essayer de témoigner à quelqu'un, puis ça marche pas. Ça marche pas. Puis d'autres fois, là, on a des paroles qui ça sort. Mais ça, c'est l'Esprit qui nous dirige. Le Seigneur connaît les cœurs, lui. Puis il sait qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, puis il est capable de nous donner. Des fois, on va dire des choses sans savoir leur situation. Puis, c'est un peu quand on prêche l'Évangile, il y a des gens, des fois, qui vont venir, puis ils vont dire comment ça se fait qu'ils connaissent ma situation. Puis, c'est pas parce qu'on connaît la situation, mais c'est parce que le Seigneur la connaît, lui. Puis, le Seigneur, il peut nous faire toucher des points qu'eux ont besoin d'entendre. Puis, c'est pour ça que la prédication de l'Évangile, c'est quelque chose de précieux. Il dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Puis dans la prédication de l'Évangile, le Seigneur, il touche les cœurs, puis il travaille par son esprit. Puis l'orateur ne sait pas nécessairement, mais le Seigneur lui donne de toucher les points qui sont importants. Donc, après ça, au verset 18, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière, c'est la refuge, c'est notre refuge dans toutes les circonstances. Dans Philippiens 4, 6, 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il ne faut jamais oublier que la prière, c'est un refuge pour nous autres. Comme il dit ici, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Vous savez, des fois, comme quand on vieillit aussi, on avance en âge, ça nous arrive souvent de se réveiller la nuit. Puis des fois, on se réveille, puis on s'endort plus. Mais pensons à des choses importantes, peut-être des frères ou des sœurs qui sont dans des situations difficiles. Puis, quand on se réveille, là, ben, prions pour eux autres, des situations qu'on connaît. Et puis, le Seigneur nous donne l'opportunité de se réveiller pour pouvoir prier, avoir un moment. Le Seigneur, regarde, pense à. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, mais le Seigneur le sait. Peut-être qu'il nous a réveillés pour le bon moment de prier pour la situation. Au verset 19 à 20, ici, Paul, il leur dit de prier, mais au verset 19 à 20, là, il leur demande de prier pour lui. Fait que là, Paul, il demande leur prière, mais lui, il en est l'exemple de prière, parce qu'on sait que déjà dans l'Épître aux Éphésiens, il a prié deux fois. Il y a deux prières qui sont mentionnées, qui prient pour les Éphésiens, qui prient pour nous aussi. Mais lui, Paul était un homme de prière. Il priait pour toutes les églises. Et dans toutes ces circonstances, il était un homme de prière. Mais là, c'est lui qui leur demande à eux de prier pour lui. Fait qu'il faut prier les uns pour les autres. Vous savez, c'est vraiment encourageant quand quelqu'un il dit, il y a un frère, moi, qui m'envoie un courriel de temps à autre, puis il dit, ton nom a été mentionné au trône de la grâce ce matin. Ça veut dire qu'il a prié pour moi. Puis c'est tellement encourageant d'avoir ça, de des gens qui disent, qui prient pour nous autres. Il faut prier les uns pour les autres. On est dans un grand combat, mais il faut prier les uns pour les autres. Puis Paul ici, lui, il dit qu'il demande leur prière, mais il en est l'exemple parce qu'il dit, regardez ce qu'il dit, faites en tout temps, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Donc, Paul, il leur demande de prier, puis il demande, il est dans les chaînes. Donc là, il prêche plus l'Évangile, Paul, il est dans les chaînes. Non, 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 non. Paul, il dit, regarde, j'ai des occasions, puis même, il y a des occasions qui lui sont données du fait qu'il est dans les chaînes. C'est que, comme il dit dans 2 Timothée 2,9, il dit, pour lequel, c'est-à-dire l'Évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Parce que lui, Paul, il allait n'importe où, puis il prêchait l'Évangile. Il dit, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Il avait lié Paul, il était dans les chaînes, il était dans les prisons, mais Paul, la parole de Dieu n'était pas liée, parce qu'on ne peut pas lier la parole de Dieu. Puis il continuait, vous savez, on dit de Sundar Singh qu'il l'avait arrêté dans un village parce qu'il prêchait l'Évangile, ils l'ont mis en prison. Mais là, en prison, il prêchait l'Évangile aux prisonniers. Fait que là, ils ont dit, mettez-les dans le trou, dans la terre. Ils l'ont mis dans le trou, dans la terre, puis là, ils chantaient des cantiques. Et là, ils ont dit, il est fou, laissez-le aller. Partout où il était, lui, il parlait du Seigneur. Puis, mais dans n'importe quelle circonstance, la parole de Dieu n'était pas liée. Puis c'est la même chose. Pendant qu'il était en prison, Paul, il témoignait avec Silas. Là, hein? On sait que le geôlier de Philippe, à minuit, il chantait des cantiques. Puis tu ne pouvais pas l'arrêter, Paul. Mais aller dans la prison, il va chanter. Mais même quand il est allé à Philippe, il n'y avait pas. Il y avait un Macédonien qui avait demandé, dans son rêve, d'aller. Mais quand il est allé à Philippe, il est allé au bord de la rivière, puis il y avait des femmes là, qui priaient, puis Lydie, elle s'est convertie, puis les femmes, mais il n'avait pas encore rencontré cet homme-là, macédonien. Il a fallu qu'il aille en prison pour le rencontrer, puis c'est le geôlier de Philippe qui a rencontré. Puis quand le Seigneur a fait des choses merveilleuses, les fondements de la prison ont été ébranlés, les portes ont été toutes ouvertes. Puis le geôlier, il est arrivé en pensant que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Puis il allait se donner la mort avec son épée. Puis Paul, il a dit, faites-vous pas de mal, on est tous ici. Les prisonniers étaient tous là, ils n'étaient pas partis. C'était pas les portes qui les gardaient, ils étaient là. Fait que là, il s'est converti. Mais aussi, pendant qu'il était en prison, il parle dans Philémon au chapitre, il y a juste un chapitre dans Philémon, le verset 10, il parle de Onésime qui l'a enfanté dans les chaînes. Donc, quand il était en prison, l'esclave de Philémon s'était sauvé, il s'est ramassé en prison avec Paul, puis Paul, il l'a enfanté dans les chaînes. Fait que la parole de Dieu n'était pas liée, il continuait vraiment à rendre témoignage de la parole de Dieu. Partout où il était, Paul, il parlait de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il demandait, il dit, qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Puis on le voit, hein, le fait qu'il a été amené prisonnier, ben, il a prêché à des rois. Beaucoup de rois, parce qu'à toute fois qu'il passait, Paul passait en cour, il parlait du Seigneur. Il donnait son témoignage. Il prêchait l'Évangile. Dans les Actes, au chapitre 22, verset 1, puis à partir du verset 1, il prêche dans le temple. Parce que là, ils l'ont saisi dans le temple, puis il prêche dans le temple. Dans le chapitre 23 des Actes, au verset 1, il parle au Sanhédrin. Il leur prêche l'Évangile parce qu'il est amené à comparaître devant eux. Dans Acte 24, au verset 1 puis au verset 10, il parle à Félix. Félix qui était venu pour l'entendre, il prêche l'Évangile. Dans chapitre 25 des Actes, tout le temps, il est tout en captivité, là. Il est enchaîné. Puis, comme prisonnier, il parle à Festus. Dans le verset 13, il parle à Agrippa. Dans le chapitre 26, dans le chapitre 27, 21, sur le bateau, quand ils vont faire naufrage, il prend le contrôle. Puis, il prêche l'Évangile. Il leur prêche l'Évangile. Puis, quand il était naufragé sur l'île de Malte, bien, il y avait Publius, qui est un chef ici, puis il prêche l'Évangile partout. La parole de Dieu n'était pas liée. Lui, il pouvait l'enchaîner, mais partout où le Seigneur l'emmenait, c'est ça qu'il disait, là, qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Fait que dans n'importe quelle situation, Paul, puis qu'est-ce qu'il allait faire? Il disait, pour moi, vivre, c'est Christ et la mort m'est un gain. C'est qu'avec avec une façon de penser comme ça, tu me mettais n'importe où, lui, il parlait du Seigneur. Dans n'importe quelle circonstance, il y avait un roi devant lui qui parlait du Seigneur. Il y avait n'importe qui, le Sanhédrin, dans le temple, lui, partout où il était, il parlait du Seigneur. Maintenant, en prison, il parle du Seigneur. Puis c'est ça qu'il voulait dire ici, là. Il demandait que les Éphésiens prient pour lui, pour que ce soit ainsi, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. C'est que c'est ça, là on est rendu à la fin du verset 20. La semaine prochaine, Seigneur voulant, on ira avec la conclusion. La conclusion, ça ne sera pas aussi long, mais on commencera quelque chose d'autre avant de pour terminer. Je pense qu'il nous reste deux autres soirs. Attendez un petit peu, il va nous rester un, deux, trois, mais deux autres soirs certains, deux autres lundi soir, ça fait que on aura une autre étude après qu'on aura fait la conclusion. C'est que je m'arrête là. Je vous donne la possibilité de reprendre vos micros si vous avez des commentaires ou si vous avez des. OK. Si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions, on va prendre le temps de regarder ça. Si vous avez de la difficulté à prendre votre micro, faites-moi signe. Parce que si vous ne le prenez pas tout de suite, des fois, ça peut être difficile.
Oui, Gérald,
Oui.
tu as parlé du livre L'Église ignorée.
Ouais.
Justement en train de lire ce livre-là.
Oui.
Comment certain que je le lise après plus que 45 ans de vie chrétienne.
Ouais, c'est ça, ouais,
Et,
c'est ça.
mais dans cette dans ce livre-là, on voit combien justement les croyants ont été persécutés par les églises qui dirigeaient les grandes églises.
Ouais.
Puis eux autres avaient vraiment besoin de ces armes-là.
Oui.
Parce qu'il se faisait martyriser, il se faisait
Ah oui.
lapider, brûler, toutes sortes, moyer, toutes sortes. Puis souvent il était content de souffrir pour le Seigneur de cette manière-là. Et que
Ouais.
dans ce cas-là, on peut dire on voit Satan comme le lion rugissant. À ce
Ouais.
moment-là, comme le lion, il se présentait comme le lion rugissant. Et aujourd'hui, on a autant besoin de ces armes-là.
Oui.
Parce qu'il se présente plus comme un agneau.
Ouais.
Comme un agneau. On a lu au verset 11 qu'il était rusé contre les ruses du diable.
Ouais.
Aujourd'hui, ça sert beaucoup des ruses pour faire tomber les croyants. Et
Ouais.
qu'on a autant besoin de ces armes-là aujourd'hui.
Ah oui.
Ne veut pas dire que Satan, il agit pas comme un lion rugissant aujourd'hui.
Ouais.
Mais dans ces périodes-là, c'était vraiment ça. Si tu croyais pas,
Également.
la même chose que les églises établies à ce moment-là, tu te faisais tuer finalement.
Ouais.
Fait que la liberté de croyance, c'était pas mal loin dans ce temps-là.
Ouais. Mais dans ça, dans l'Église ignorée, ces gens-là qui suivaient la parole de Dieu, ils étaient appelés des dissidents. Ils les appelaient des dissidents parce qu'ils ne marchaient pas selon les églises qui étaient établies, comme tu dis, là. Il y avait des églises nationales. Et même dans la Réforme, c'est ça, il y a eu des églises qui ont été faites. Puis, on sait que dans le réveil des années 1800, comme les Wesley, dans ce moment-là, tu n'avais pas le droit de prêcher la parole en dehors du bâtiment d'église. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis il fallait que tu sois ordonné pour prêcher la parole. Fait que les autres, ils ont été dissidents dans un sens parce qu'ils sont allés vers les mineurs, ils sont allés dans des champs, ils prêchaient dans des champs. Puis ils se sont mis aussi, il y avait des gens qui n'étaient pas ordonnés qui se sont mis à prêcher la parole de Dieu. Mais ils ont été mis dehors souvent parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Mais le Seigneur a utilisé, il y a beaucoup de gens qui ont été convertis, ils allaient vers les gens avec l'Évangile.
Mais le mot protestant, vous parlez des dissidents, le mot protestant, ça
Moi,
vient
je dis que le mot protestant là, est utilisé des fois, je suis pas mal sûr de mon coup, c'est que celui qui a protesté contre l'Église catholique, c'est le roi Henri VIII, là. Parce que lui, il voulait avoir un divorce, puis il voulait se remarier, puis le pape voulait pas. Puis lui, il a protesté contre le pape, puis il a fondé sa propre religion à l'image de l'Église catholique, l'Église anglicane, mais c'est lui qui était le chef. Mais on parle de. Dans la Réforme, ce n'était pas des protestants. Dans un sens, ils ont ramené la vérité, puis ils ont été mis dehors. Mais pour l'Église, il est mieux parler du protestantisme parce que ça regarde mieux pour eux autres. C'est le roi qui a voulu, il voulait avoir le divorce pour pouvoir se remarier. Fait que ça, c'est plus glorieux que quand la vérité de la parole a été remise en lumière, puis ils ont excommunié à cause de ça.
On peut remercier Seigneur, Gérald, que le Seigneur y agit encore aujourd'hui. Et en fin de semaine, on a vécu la même chose. On était avec les fermiers chrétiens, puis j'étais avec Francine. Francine elle pourrait témoigner, elle était à l'écoute, je crois.
Oui,
Et on organisait quoi? Puis on montait un kiosque d'évangélisation pour les fermiers chrétiens. Puis le monsieur qui était responsable, il y a eu un manque de communication. Mais c'est Francine, c'est notre soeur qui a eu les ribambles. J'étais avec elle. Le monsieur, il dit à notre soeur, il dit, c'est une secte, l'association des fermiers chrétiens, c'est une secte. Puis là, il dit, je ne vais pas vous voir là, je ne vais pas vous voir, c'est Frédéric. Parce que, mais avant, moi, j'avais été avec ce monsieur-là. Je l'avais rencontré, pour le savoir ce qu'on installait le kiosque. Et c'est samedi, c'était pas beau. Là, il me dit, c'est correct, vous allez pouvoir vous installer là, etc., etc. Mais il y avait eu un manque de communication. Mais là, comme on dit, les bras nous ont tombés. Mais on a loué le Seigneur. On a loué le Seigneur parce que le Seigneur, il dit dans sa parole, l'Évangile, ça dérange. Et ça dérange la plainte, puis c'est les gens, quand c'est l'œuvre du Seigneur, l'adversaire est à l'œuvre.
Exactement.
Puis le Seigneur, on a mis ça dans la main du Seigneur, notre sœur Patricia. Elle a prié pour ça, il dit, Seigneur, il dit, je ne suis pas venu partir de Saint-Georges avec tout l'équipement, toute
Aïe.
l'installation, parce que ça prend plusieurs personnes pour tout installer ça.
Ben
Puis
oui.
le lendemain, ça s'est réglé tard dans la soirée, là,
Ah.
avancé. Et on peut remercier Seigneur pour ça.
Ouais.
Et même ça a ouvert des portes parce qu'au kiosque, le monsieur qui a démêlé ça, c'est le maire de Saint-Frédéric, il est venu au kiosque.
Ah bon?
Il a entendu l'Évangile.
Ben.
Un autre point. Oui,
Merci Seigneur, la parole de Dieu est
c'est ça.
poliée.
Fait que c'est pour ça que je parlais par là, c'est important de prier pour les autorités parce que c'est eux soit qui sont contre nous ou qui vont appuyer. C'est un des deux. Ils ne
Ouais.
pourront pas avoir entre les deux.
Ouais.
Ils sont appuient ou contre. C'est un
Ouais.
des deux.
Ouais.
C'est la même chose avec ce monsieur-là, puis le monsieur l'a compris par après. Il n'avait pas eu la bonne information. Mais c'est l'adversaire.
Ouais, c'est ça. Merci Seigneur.
Ne rentre pas dans tous les détails, là, ça.
Ouais. OK, je pense que notre temps est arrivé. Attendez un petit peu. Oui, notre temps est arrivé. C'est qu'on va terminer par un mot de prière. Puis, s'il y en a qui veulent continuer de jaser après, on pourra le faire. Et ceux qui doivent partir pourront le faire aussi. C'est qu'on fait, on termine par le mot de prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois parce que c'est des choses qu'on a besoin de connaître, des choses qu'on a besoin d'apprendre. Puis, on te remercie, notre Dieu, que ta parole n'est pas liée. Même si on nous lit, nous, ta parole, elle fait son effet. Puis, on te demande, Seigneur, que tu puisses nous aider à revêtir toute cette armure-là qu'on a besoin pour tenir ferme, pour résister, puis tout surmonter dans les mauvais jours, parce qu'on sait que l'ennemi va attaquer. Mais on est du côté victorieux. C'est toi, Seigneur, qui as la victoire, puis on la partage avec toi. On te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour tous ceux qui sont avec nous ce soir. Je te demande de bénir chacun. On ne sait pas, on ne connaît pas les combats qu'on a chacun, mais on sait, Seigneur, que tu peux délivrer puis aider dans toutes ces circonstances. On te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.